Le chômage vous occupe, le chômage vous préoccupe, occupez les AMP, occupez les AMP. Nous sommes nombreux, nous avons assez d'être pleins. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins.
Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bon, merci. Donc, on va démarrer le deuxième débat de ce forum. Donc, dans les quatre thèmes retenus par la marche mondiale pour ce forum, donc on a la question du travail. Mais évidemment, comme vous l'avez vu, on l'a intitulé « Travail et autonomie », parce que nous pensons que c'est deux questions qui sont profondément liées et que, évidemment, si on n'a pas de travail, si on est dans la précarité, eh bien, la question de notre autonomie, de l'autonomie de chacune est en cause. Donc, pour ce débat, d'abord, je ne me suis pas présentée, donc Annie Coupé de l'Union syndicale solidaire. On va co-animer avec Sigrid Gérardin de la FSU. Donc, on aura, le plaisir d'accueillir Florence Aubenas, journaliste, et qui a notamment écrit Le Quai de Ouistreham. Voilà. Cher à mon cœur, moi qui suis normande. Voilà, on a aussi le plaisir d'accueillir Rachel Silvera. Donc Rachel Silvera, voilà, chercheuse à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, non, sociologue, économiste. À chaque fois, elle va me disputer. Donc Rachel, mais je pense que tout le monde ici la connaît, voilà. Et donc, ensuite, nous aurons trois témoignages de lutte, de militantes. Donc, on aura une camarade de Marseille, de la CGT, qui est caissière, donc qui témoignera à la fois de ce que les caissières subissent, mais aussi de comment elles résistent et comment elles luttent. On aura aussi une intervention du collectif Femmes Égalité sur la question des femmes et des luttes de femmes et des grévistes sans papier. Et on aura une intervention de Maudit sur la question femmes et handicap dans le travail. Donc l'idée, c'est à la fois de faire un état des lieux, évidemment, de montrer aussi que dans cet état des lieux, il y a des contradictions qui jouent, mais il y a aussi des solidarités, des résistances et des luttes, parce que si nous sommes ici, c'est à la fois effectivement pour dire ce que nous vivons, pour dire ce qui nous opprime, mais pour dire aussi que nous sommes capables de lutter, de résister, de créer du lien entre nous. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est aussi l'enjeu de la marche mondiale des femmes.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Vous écoutez la table ronde sur le travail et l'autonomie financière des femmes, enregistrée le 12 juin 2010 à la mairie de Montreuil dans le cadre du Forum national de la marche mondiale des femmes.
Donc je passe directement la parole à Florence Aubenas et encore une fois je la remercie de s'être rendue disponible.
Bon ben bonjour à tout le monde et puis je me réjouis de voir une salle si comble un samedi après-midi. Donc moi, ce dont je voulais vous parler, c'était d'une expérience que j'ai faite en m'inscrivant au chômage sous mon nom, mais sans donner mon identité, j'allais dire sans me présenter comme journaliste, et que j'ai faite il y a pratiquement un an en Basse-Normandie, à Caen. Et j'avais décidé de m'inscrire au chômage en disant voilà, comment vivre la crise à hauteur, j'allais dire, d'être humain et non pas à hauteur d'analyse à Wall Street ou de choses comme ça, et qui est mon but à moi de journaliste. Donc moi, je voulais montrer et pas démontrer ce qui est l'essentiel de mon travail. Donc c'était vraiment cette démarche-là que j'ai eue. Et je vous disais, je voulais voir la crise à hauteur d'être humain, Et en fait, on a tendance à dire à hauteur d'hommes et de femmes, et en fait, en réalité, on la voit surtout à hauteur de femmes. Et c'est quelque chose qui a été très frappant dans cette expérience, c'est que sans cesse, on est renvoyé au fait d'être une femme. Alors, ça commence à Pôle emploi quand vous vous inscrivez, c'est-à-dire vous arrivez, j'ai dit mon âge, 48 ans, on vous dit, voilà, alors qu'avez-vous fait, etc. Vous n'avez rien sur votre CV. Je dis, oui, écoutez, avant, j'étais pour expliquer le fait que mon CV était entièrement vide, je dis, oui, avant, j'étais avec un homme, et voilà, on a vécu ensemble une vingtaine d'années, et nous nous sommes séparés, donc maintenant, je dois gagner ma vie, ce qui n'était pas le cas avant. Et la femme qui était en face de moi, car c'était une femme aussi, qui était conseillère à Pôle emploi, m'a répondu comme tout le monde. Donc ça a été la première chose. Et j'avais de la chance, car c'était une femme, je vous le précisais, parce que quand c'est un homme, il vous précise pour une plus jeune, sans doute. Donc vous êtes assez vite renvoyé à cette condition-là. Ensuite, la présentation des choses a été de dire, bon, moi je n'avais aucun a priori, c'est-à-dire je me suis inscrite au chômage, quel qu'était le boulot qu'on m'ait proposé, je l'aurais pris. Et là, la conseillère m'a dit, voilà, écoutez, Madame Aubenas, vous avez votre âge, vous êtes comme si. Je vais vous proposer quelque chose, mais il faut que vous saisissiez cette chance, parce qu'elle ne repassera pas. Maintenant, il y a déjà un bac spécialisé. Bientôt, il y aura un deuxième cycle. Et il faut, que vous saisissiez cette chance. Attention, dans quelques temps, ce sera trop tard pour vous. C'est femme de ménage. Et les dés étaient jetés. Et donc, ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est que ça a été vraiment l'effet de la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Vous connaissez cette histoire, qui est la chose qui est absolument devant vous, c'est celle précisément que vous ne voyez pas. C'est une histoire banale, voilà. Et je suis tombée sur la précarité que je voyais comme tout le monde, mais sans réaliser ce que c'était. Et donc, la première chose qui est assez frappante, c'est que tout ce qui est social a aujourd'hui été asexué. Donc on disait femme de ménage, mais en réalité, le terme poli, donc moi je connaissais le terme de la crise d'avant, qui était technicien de surface. On devrait évidemment dire technicienne de surface, mais on dit technicien de surface parce qu'on est poli. Donc le terme de la crise actuelle, c'est agent de propreté. Donc c'est déjà plus technicien de surface, je vous le dis au cas où, hein, vous soyez bilingue vous aussi. Et donc, en tout cas, ça prouve bien agent de propreté. Avant, c'était femme de ménage. Maintenant, c'est agent de propreté. Donc, ça n'a déjà plus de sexe, j'allais dire. On dit, pareil, travailleur pauvre, travailleur précaire. On devrait dire travailleuse pauvre et travailleuse précaire, car 8 sur 10 sont des femmes. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez voir immédiatement quand vous mettez à travailler dans ce secteur-là. C'est que vous êtes dans un monde de femmes. Donc, même si vous n'êtes pas au courant des statistiques, ça vous saute au visage. Et j'avais notamment un des travaux que j'ai fait était sur un ferry boat. Donc ce ferry boat accostait à Ouistreham, donc le bouquin s'appelle le quai de Ouistreham, c'est l'endroit où ce ferry arrive, et il relie la Normandie à l'Angleterre. Et dans l'heure d'escale, il faut faire le ménage. Donc une escouade d'une quinzaine de femmes et de 3-4 hommes monte à bord pour faire le ménage. Donc c'est évidemment un travail qui concerne hommes et femmes, hein. Vous savez qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche aujourd'hui, mais le fait est qu'il n'y a que des femmes, pratiquement. Alors il y a 3-4 hommes. Alors, c'est assez marrant parce que l'essentiel de la tâche sur ce ferry consiste à nettoyer les toilettes. Alors, ça s'appelle faire les sanitaires, et en fait, on nettoie les toilettes. Et de temps en temps, vous savez, dans ces groupes, il y a, des têtes de Turc, et parfois, une des têtes de Turc est un homme. Alors, pour se marrer, pour rigoler, on dit, ah bah, machin, Kevin, un tel, ah bah, il va faire les sanis. Mais c'est jamais vrai. C'est toujours pour rire. Et donc, quel que soit celui dont on parle, il ne le fera jamais, les sanitaires, il passera toujours l'aspirateur, il fera les lits, il aura une fonction qui est, voilà, qui n'est pas celle-là, qui n'est pas la dernière et pourtant la plus fréquente des fonctions sur le ferry boat, qui est de faire les toilettes. Et ça n'est jamais explicité, c'est-à-dire que quand on dit, mais pourquoi les hommes, la question que j'ai posée, pourquoi les hommes ne font jamais les sanitaires? Alors tout le monde prend de l'air étonné. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de réponse, mais la réponse est évidente. On ne se pose d'ailleurs même pas la question. Donc ça c'est très massif. Et de la même manière, je vous disais que le social est aujourd'hui asexué, c'était la même chose dans ce qui est... Il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui sont... Alors je ne sais plus comment tourner les choses, qui élèvent seules leurs enfants. Voilà. Alors maintenant, il y a ce joli terme qui dit... Alors donc c'est une des conversations principales et ça, comment faire? En plus, vous savez, le boulot précaire est un boulot extrêmement fragmenté. Donc on a jusqu'à 5 employeurs par jour. Parfois, le temps de trajet excède le temps de travail. Donc, on va faire une heure et demie de trajet pour travailler une heure rémunérée, 8,71 brut de l'heure. Et évidemment, le syndicat des agents de propreté avait négocié des accords de branche qui font que ça devrait être à 9,06. Ce n'est évidemment jamais appliqué, donc ça reste à ce salaire-là. Et donc, parfois, vous mobilisez 3 heures de votre temps pour gagner un peu plus de 7 euros net de l'heure. Donc, c'est l'idée, c'est ça. Alors on est là, on discute, et puis comme, évidemment, c'est un secteur en tension, hein, donc évidemment, chaque employeur négocie le fait que, voilà, je vais nettoyer cette salle, et l'entreprise de nettoyage vous dit, voilà, nous, on la fera en 3 heures. Et l'entreprise suivante va dire, ah ben, nous, on la fera en 2 heures et demie pour décrocher le marché. Mais évidemment, c'est pas possible de la faire en 2 heures et demie. Donc, on la fera toujours en 3 heures, voire 3 heures et demie, voire 4 heures, parce que l'entreprise précédente avait déjà négocié à la baisse. Et comme vous n'avez pas le temps, vous faites des heures supplémentaires qui ne seront pas payées. Donc, on se retrouve dans cette configuration-là. Et évidemment, à chaque fois que le cas se présente, c'est la journée entière qui s'effondre. C'est les enfants à aller chercher, c'est tout, vous savez, cet échafaudage compliqué qui fait la journée d'une femme, qui s'écroule tout à coup. Et donc, à chaque fois, on en vient à parler de ça. Et donc, le terme poli est, je le disais, famille monoparentale. Alors avant, on disait fille, mère, femme seule, femme élevant ses enfants. Et donc maintenant, il y a ce terme asexué de famille monoparentale, mais on sait que c'est que des femmes aussi. Hein, c'est comme faire les sanis, c'est que les femmes, ça se dit pas. Comme précaire, c'est que les femmes, ça se dit pas. Famille monoparentale, c'est que les femmes, mais ça se dit toujours pas. Donc on est confronté à ce milieu où on est entre femmes, à subir les mêmes choses et où le terme n'est jamais prononcé. On ne dit jamais qu'on est entre femmes. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'à l'occasion de ce livre, et puis après vous poserez des questions à la fin, comment faire, je ne voulais pas monopoliser la parole, la dernière des choses que je voulais vous dire est qu'à l'occasion de ce livre, la première des choses, c'est que je vois les femmes avec lesquelles j'ai partagé ces heures-là, et avec un certain nombre d'entre elles, comme c'est toujours le cas dans le travail, je suis restée très copine. Et donc j'ai l'habitude d'utiliser moi mes termes, mes pauvres mots de journaliste pour dire le travail précaire, voilà, pour travailleurs pauvres, travailleuses pauvres, enfin des mots comme ça. Et à chaque fois elle m'appelle, alors elle dit « Ah, on t'a entendu, on t'a vu, on a lu telle chose, on a lu le bouquin », et ça les exaspère que j'emploie ces mots-là. Alors elles me disent « Oui, alors à chaque fois, de nouveau tu nous as traités de marginal, de nouveau tu nous as traités de SDF », et ces termes de travailleuse précaire ou de travail précaire ou de travailleuse pauvre les exaspère parce qu'elles ont l'impression d'être basculées vers une marginalité dans laquelle elles ne se reconnaissent pas. Et j'allais dire, elles ont absolument raison. Parce que ce qu'il y a de très frappant, c'est que, effectivement, la précarité a un sexe, ce sont des femmes. Mais en revanche, c'est tout le monde. J'allais dire, c'est toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont déjà à la retraite, mais dont la retraite est trop petite et qui ne peuvent pas en vivre. Il y a des lycéennes, voire des collégiennes, dont la famille a éclaté pour une raison ou une autre et qui se retrouve à faire des heures avant ou après d'aller à l'école. Et il y a au milieu tout un tas de mères de famille, de femmes qui ont dégringolé parce qu'elles ont déménagé ou pas déménagé, de femmes qui veulent se hisser. Donc il y a des gens avec des raisons tout à fait contradictoires qui cohabitent sous ce même terme de travailleurs précaires. Et elles se décrivent comme on est la France ordinaire, la France normale. Et je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est nous toutes, j'allais dire. Et il y a là quelque chose d'un miroir qu'on tend et qui est tout à fait réel. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression que ça va englober, j'allais dire, une certaine population, pour parler à nouveau comme une journaliste. Or, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment nous toutes. Et l'autre chose, c'est que je rencontre aussi beaucoup d'associations, comme il y en a sans doute aujourd'hui dans la salle. Et on discute de, voilà, des problèmes. Alors elles disent, voilà, nous on fait des groupes de travail ou pas, des groupes de parole. Enfin, on discute des thématiques de femmes. Et la plupart m'ont dit, voilà, mais il y a une chose dont on n'arrive pas à parler dans des groupes de femmes, c'est le travail. Et chaque fois qu'on fait une réunion sur le travail, notre travail, un groupe de parole sur le travail, personne ne vient ou personne n'a rien à dire. Et alors, je ne comprenais pas pourquoi, on en a longuement parlé. Et finalement, je trouve presque le plus frappant. C'est que la plupart disent, mais oui, enfin, nous on travaille, mais vous savez, on nous dit souvent, ouais, enfin, toi t'as pas un travail, tu bricoles. Toi t'as pas un travail, t'as des heures. Ouais, enfin, toi t'es travailleuse précaire, c'est-à-dire t'as quelques heures. Et finalement, j'allais dire, ça a été intégré. elles-mêmes disent, quand, est-ce que tu travailles? Enfin, moi, je fais des petits trucs, je fais des petites heures. Je fais des... Elles qui ont, un boulot de chien, qui travaillent plus que tout le monde, ne se décrivent même pas elles-mêmes comme des travailleuses et ne se reconnaissent pas à elles-mêmes ce statut-là. Et ça, c'est extrêmement frappant, le fait que même ce statut leur est nié. Et même elles ne se décrivent pas comme ça. Alors évidemment, la porte de sortie de cette précarité, on l'a fait miroiter en disant, écoutez, si vous n'en faites pas trop, si vous ne vous manifestez pas trop, si vous ne demandez pas le paiement des heures supplémentaires, si vous arrivez tranquillement, le jour où il y aura un emploi en vrai, un emploi en dur, un emploi comme les hommes, ce sera pour vous. Et évidemment, ce jour-là n'arrive jamais, j'allais dire. Et c'est vraiment, sans l'avoir cherché, comme la lettre volée dont on parlait tout à l'heure, ce sur quoi je suis tombée en faisant cette enquête. Je ne pensais pas faire un travail sur les femmes, et je suis bien contente d'être invitée aujourd'hui à une journée sur les femmes. Merci à vous. Et je voulais spécialement remercier aussi la Claude qui vient de chanter ces deux chansons que j'ai trouvées formidables. Voilà. Et je trouve qu'on peut l'applaudir aussi.
Merci beaucoup, Florence.
Mode d'emploi.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous écoutez la table ronde sur le travail et l'autonomie financière des femmes, enregistrée le 12 juin 2010 à la mairie de Montreuil dans le cadre du Forum national de la Marche mondiale des femmes.
Donc tout de suite, Rachel, économiste. Merci à vous et bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici et en même temps très émue parce que je trouve qu'on est dans une période où tout se durcit, où la situation est plus que jamais critique. Je ne sais pas si on touche le fond, si on va encore sombrer, mais je trouve qu'il y a des signaux et ce que vient de nous présenter Florence en est un des symptômes peut-être le plus important, qui nous montre que d'abord, la crise économique est là. Alors, il faut l'évoquer, on en parle sans arrêt, mais on ne regarde pas les dessous de la crise économique, comme j'avais intitulé un papier pour l'intersyndicale sur les femmes qui avait eu lieu cette année. Les dessous de la crise économique, c'est, à mon sens, le fait qu'aujourd'hui, le chômage visible, calculé, reconnu, il concernerait les hommes. Alors, c'est une vérité sur laquelle, d'ailleurs, il faut se battre, nous aussi. Mais c'est qu'une partie de la vérité. Derrière ce chômage des hommes se cache une précarité de plus en plus forte des femmes. Et ça, c'est nouveau, pas au sens où la précarité débarque. La précarité n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est ce que nous dit Florence, entre autres, c'est qu'elle s'institutionnalise totalement. C'est devenu un statut à part entière. Être femme de ménage, avoir des heures de travail sans un travail, c'est une chance, nous dit-elle. Ce qui est, à mon avis, une des évolutions les plus dramatiques dont on ne parle pas. Le chômage partiel d'un côté qui se trouve revalorisé à juste titre, mais quant au temps partiel contraint, jamais on dit clairement que c'est une forme de précarité et qu'à ce titre, il doit être soit condamné, soit accompagné pour ce qui concerne les femmes qui le subissent. J'y reviendrai dans mes propositions. Donc ça, c'est un des points, un des noyaux les plus durs des inégalités qui se reflète ensuite, bien entendu, dans la question des salaires. Je vais donc faire quelques points de constat assez rapides. Les écarts de salaire, on a beau faire des lois, on y reviendra, on a beau mobiliser, on a beau aller maintenant en justice, j'y reviendrai aussi, rien à faire, les écarts de salaire ne bougent pas. Tout confondu, on peut dire qu'on est autour de pas loin de 30% d'écart. Alors on peut jouer là-dessus, ça, c'est nos économistes savent faire ça, manipuler les statistiques et dire « Oh mais, toutes choses égales par ailleurs », ce qui n'existe pas, on n'est pas égaux jusqu'à nouvel ordre, eh bien on n'a que 5% d'écart de salaire. Alors, la belle affaire. Sauf que, quand on regarde de plus près, notamment pour les femmes cadres, eh bien, cet écart, parmi les cadres, il est de 27% aujourd'hui. Mais qui s'en préoccupe? Sur les métiers, j'y reviens pas, mais ça me paraît très important de rappeler à quel point ils sont désormais sexués, même si on met des caches-sexes sur leur nom. C'est finalement des caches-sexes, cette histoire d'agents de propreté, ex-techniciens de surface. Il est clair qu'il y a une division des métiers qui a existé, y compris dans une même boîte. Eh bien, on s'aperçoit que cette naturalisation
de l'emploi des femmes persiste. C'est une nouvelle, un stéréotype qui a une vie très dure. Il est logique qu'une femme soit infirmière, qu'elle soit institutrice, qu'elle soit agente, moi je féminise, de propreté, ou caissière, on va en reparler dans deux minutes, j'ai oublié la vente, hein, c'est aussi évident que ça lui va très bien, ou assistante ou secrétaire. Ça va de soi que non seulement elle le soit largement, à 80%, 90%, je parle aussi de l'aide à la personne, 98% d'assistantes maternelles. Et on ose dire maintenant assistant maternel, ça va t'intéresser Florence, pour éviter, pour soi-disant arriver à la mixité, on pense qu'en mettant le neutre, on y arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit maintenant assistant maternel, sauf qu'on a laissé maternel. Excusez-moi, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Disons assistant parental, si on veut vraiment impulser un nouveau statut, une professionnalisation, je ne sais pas quoi, chose qu'on ne fait surtout pas. Parce que la condition pour maintenir ces femmes dans ces emplois, c'est surtout de ne pas valoriser leur statut et de ne pas reconnaître que sans ces soins, sans ce care, alors moi ça m'agace un peu, mais ça en fait partie, sans ce rôle de rouage que dans l'administration que fait une assistante en cumulant quatre boulots en même temps, en répondant à l'urgence, en faisant tout en même temps, sans cette dévalorisation, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc les femmes ne disent rien, elles sont ravies quand elles ont quelques heures de nettoyage, elles subissent ce système, mais l'entreprise, la société, s'en sert largement aussi. Et ça, je crois que c'est très important de réfléchir aujourd'hui, j'y reviendrai dans les propositions, sur le fait d'une revalorisation systématique de ces emplois qui sont le cœur, ce sont les piliers de notre société, mais il y a un déni complet parce que tout le monde s'est entendu, il y a eu un accord social complet sur le fait que ça devait rester l'affaire des femmes, donc dévalorisée. Je n'ai pas le temps de tout développer, je voudrais revenir quand même aujourd'hui sur la question des retraites. Hein. On ne peut pas ne pas aujourd'hui évoquer cette question dramatique, dramatique. Alors, on ne va pas victimiser les femmes, on y reviendra, il y a plein de choses positives qui se passent, mais il n'empêche que du côté des retraites, ce qui nous attend, ce qui se passe pour elles aujourd'hui, n'a jamais été aussi dramatique. On s'était payé la réforme de 93, celle de 2003, et ça n'a pas suffi. On a eu beau essayer de mobiliser un petit peu en disant « oui, mais la retraite des femmes, elle est de 40% inférieure, voire 50% inférieure, parce qu'elle reflète évidemment toute la carrière, parce qu'il y a des femmes qui ont été à temps partiel, et ces années-là vont être comptées, parce qu'il y a des femmes qui ont osé interrompre leur activité quelques années, qui n'ont pas travaillé tout de suite. C'est elles, c'est pas eux, ces messieurs, qui se sont collés la garde principale des enfants et ses contraintes familiales. Et donc tout cela, elles le payent à la fin. Et moi maintenant, je me dis qu'il faut mobiliser les jeunes en leur disant « projetez-vous quand on parle d'autonomie. D'accord, vous avez rencontré un compagnon, c'est le bonheur, vous voulez vous installer, vous avez un enfant, un deuxième enfant. Ah, vous pensez au congé parental ?» Eh bien moi je leur dis « pensez aussi à votre retraite ». Alors c'est un peu glauque, hein, je comprends, parce que là on est dans l'amour et donc d'un seul coup revenir sur la retraite. Mais je dis ça à ma fille quand même parce que... Et quand je dis « mais c'est n'importe quoi, elle ne pourra jamais reprendre son boulot normalement, elle sera déclassée et la plupart d'entre elles d'ailleurs deviennent inactives, même plus chômeuses à l'issue de ce congé parental », on me dit « mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Toi, ça va, t'es nantie. Nous, on n'a pas le choix. Donc, ce congé parental, il est temps que ça cesse. C'est très lié à cette question de retraite. Il est temps qu'on arrête de donner une allocation de misère, un demi-SMIC, à des mères les plus déqualifiées, les plus précaires, comme seule solution. Alors, au nom de l'épanouissement auprès de leurs enfants, on va nous mettre la conciliation en avant. Alors même que, et c'est pareil pour le temps partiel, ça n'a rien à voir avec cette conciliation, puisqu'elles se retrouvent seules avec leurs gamins, donc ça on peut en discuter, pas de socialisation précoce pour ces enfants-là. Quand ils sont dans des milieux défavorisés, ça change beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en termes de santé et d'accès à un repas à l'école, bon, ou à la crèche ou ailleurs, enfin à la crèche. Bon, encore faut-il avoir les moyens. Donc ça joue aussi sur les inégalités. Alors deuxième temps, un peu rapide, il y a des acquis, mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a plein. Il y a des lois. Mais combien de lois faudra-t-il encore pour qu'enfin on décide de trouver une loi pour appliquer les lois? C'est ce qui devrait arriver d'ici, je vous rassure, d'ici la fin de l'année. Puisque, alors si on reprend, il y a eu Alors, on pourrait partir du traité de Rome, du préambule de la Constitution. On est tous égaux. Il n'y a pas de souci, c'est inscrit. C'est dans le marbre. Donc, c'est dit, c'est écrit, c'est vrai. D'accord ? Il n'y a pas de souci. 72, l'égalité des rémunérations. Entre parenthèses, égalité des rémunérations pour un poste strictement égal ou de valeur comparable. C'était déjà écrit depuis 72. Hein. Pour quelle raison ? Peur de la concurrence, les femmes arrivaient sur le marché du travail et allaient foutre en l'air si on gardait un salaire féminin, si on gardait le fait qu'elles soient moins payées, il allait y avoir une concurrence déloyale par rapport aux hommes. Donc l'égalité, hein, par la loi, c'est souvent un habillage d'un souci économique, hein, et d'une logique économique assez implacable finalement. Hein. Bon, il y a un peu d'état d'âme, il y a un peu, bon, les droits fondamentaux ça existe, mais quand même, on voit comment ils sont très souvent inspirés par une logique économique. Ça me paraît important. Alors, après 83, Roudy, elle s'est battue. 2001, on s'est battu pour obliger les négociateurs à introduire l'égalité. 2006, on remet une couche, parce que chaque gouvernement, quand il arrive, il faut qu'il montre que l'égalité, c'est son souci. Et cette loi nous dit, avant 2010, décembre, 31 décembre 2010, il faut qu'il y ait, je cite, une suppression des écarts de salaire. On marche sur la tête, moi ça m'avait fait mourir de rire quand on voit d'où viennent les écarts de salaire, qu'on arrive à les supprimer. Hein, moi c'est Xavier Bertrand, quand je le vois, je repense à cette phrase qu'il avait eue. Je ne veux plus voir d'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes. Alors c'était joli cette expression, il ne veut plus les voir, c'est-à-dire on va les mettre sous le tapis. Hein, on va, je sais pas comment. Donc les lois, on les a. Mais les sanctions, elles existent, elles sont jamais appliquées. Il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail, il n'y a pas assez de contrôle pour que la loi soit tout simplement appliquée. Donc arrêtons de faire des lois et simplement obligeons le gouvernement à appliquer ces lois et à fournir des sanctions. D'ici le 31 décembre prochain, une entreprise qui n'a pas négocié, qui n'a pas montré qu'il y a des écarts de salaire, qui n'a rien fait, sera pénalisée. Il n'y a pas de raison, on le fait pour les seniors, on le fait pour... Alors, la question du handicap, qui touche aussi les femmes, on y reviendra, hein, c'est pas antinomique, mais, et puis il y a des femmes seniors, hein, mais il est hors de question de ne pas prévoir de vraies sanctions sur cette question, alors qu'il y a eu des engagements depuis belle lurette sur ce thème. Donc ça, c'est vraiment affligeant, parce que quand on voit le nombre d'accords sur l'égalité, on est, je suis un peu découragée de certains jours, 8% d'entreprises ont négocié des accords égalité. Dans ces entreprises, ce sont celles du CAC 40, la grande majorité, avec l'idée de AXA pense à vous. Et donc, quand on est sur un marché où on se bagarre pour les contrats d'assurance, c'est bien d'afficher un accord égalité, de dire tant de millions d'euros pour les femmes, 5 millions d'euros sur 3 ans. Et là, peut-être qu'au moment de choisir un contrat, on va dire je vais prendre AXA, il fait quelque chose pour les femmes. Puis quand on regarde la réalité, ça représente du 0,1% de la masse salariale. Parce que c'est des tellement grosses boîtes que c'est une goutte d'eau par rapport, ne serait-ce à leur plan marketing. Donc il y a un retour sur investissement immédiat pour elles, dans la mesure où, quand vous allez sur Google et que vous tapez entreprise ayant négocié un accord égalité, vous êtes directement sur AXA. Sur le site AXA, d'accord ? Donc c'est de la pub gratos. Enfin bon, il y a un retour sur investissement, c'est évident. Autre avancée qui me paraît significative, et malheureusement trop rare, et puis inquiétante pour l'avenir, c'est ce qui s'est passé avec la HALD, hein, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Juste un cas qui vient de tomber, BNP Paribas, on va lui faire un peu de pub, a été condamné à verser 350 000 euros. C'est pas rien. Pour avoir pénaliser une femme tout au long de sa carrière. Alors c'est une femme cadre, elle a touché la moitié. Bon, on peut dire c'est pas notre souci, mais pour moi c'est une figure emblématique. Elle a réussi à démontrer que par rapport aux hommes rentrés au même moment qu'elle, même diplôme, même couleur de peau, la seule différence c'était le sexe. Eh bien ils ont. Et puis ensuite ça a été 4 enfants. Il faut dire qu'elle avait fait fort. 4 enfants. Des arrêts dans sa carrière. À chaque fois qu'elle est revenue dans la boîte. Elle a été déclassée et progressivement, elle a démontré que le fossé en termes de rémunération et d'emploi était devenu énorme. C'est une victoire pour nous qu'il faut absolument développer partout, qui démontre que si on se bat, alors là, individuellement, mais ensuite on peut le porter collectivement, eh bien on peut gagner. Et le fait que la HALD perde peut-être son autonomie est pour moi dramatique aussi, je le dis, parce que comme par hasard, le débat sur le statut de la HALD s'est posé même pas 15 jours après ce cas de figure qui a fait beaucoup de remous. Hein, on a reproché, la direction de BNP était furieuse, presque un jour y est là. Alors, je ne veux pas être trop longue, je voudrais revenir, ah c'est bon, sur maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, c'est mes propositions complémentaires de ce qui est proposé dans le papier que vous avez rédigé, qui vont dans le même sens et qui complètent, hein, c'est d'autres pistes qui me paraissent importantes. Alors, la première, qui est générale, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas laisser passer un seul projet de loi, une seule mesure dans le champ économique, une seule réforme, sans exiger qu'il y ait d'abord une évaluation de ce que cela va représenter du point de vue du genre, du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes. La réforme des retraites d'aujourd'hui ne doit pas se faire sans qu'on intègre, et pas de façon marginale en disant « Oh, les pauvres, elles sont au minimum vieillies », c'est pas ça, non, c'est revenir aux sources, sans qu'on intègre les conséquences que ça pourra avoir sur les femmes. Je pense au RSA, qui partait d'une bonne idée, hein, on va lutter contre la pauvreté, on va permettre à des personnes de revenir vers l'emploi. On a simplement oublié qu'à travers ce dispositif, on renforçait la précarité pour une petite poignée de femmes, celles qui étaient déjà les plus précaires, puisque, si calcul économique il y a, c'est plus rentable de travailler peu pour toucher le maximum de RSA, et d'autant plus qu'on met les femmes mariées ou en couple en situation de chantage, puisque ce RSA, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, est familialisé, c'est-à-dire qu'on le touche en fonction du revenu du ménage et non pas de la personne. Donc, travailler plus pour elle, c'est peut-être perdre pour la famille une partie de ce RSA. Il y a donc un chantage qui revient maintenant sur les femmes. Elles ne sont plus ayant droit, elles travaillent, mais on va leur faire porter la responsabilité de faire perdre du RSA à leur ménage. Alors, donc, pas une mesure, un dispositif sans que l'égalité soit imposée dans les thématiques. Et ça, c'est pas fait. C'était un projet, ça n'a jamais été fait. Deuxième recommandation, si je puis dire, une condamnation, mais alors réelle, du temps partiel subi, contraint. Je ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qu'un temps partiel choisi, qui a ses contraintes, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là, mais moi je dis qu'il est inadmissible qu'une femme qui veut travailler n'ait pas un statut reconnu comme tel et n'ait que des heures et non pas un emploi ou un travail. Et je propose, je vais loin là, non pas qu'on revienne, parce qu'on l'a vu, en termes horaires, on est en dessous du SMIC, hein, pour ces femmes-là. Et moi, je dis, pourquoi est-ce qu'on n'exige pas, alors non seulement une revalorisation du SMIC, ça fait partie du fond, hein, mais plus spécifiquement, pourquoi est-ce qu'on n'exige pas que toute personne qui souhaite travailler ait droit à un SMIC mensuel minimum? Qu'on cesse, lorsqu'elles n'ont pas les heures de travail souhaitées, qu'on cesse de les ramener. Alors déjà, qu'elles aient le SMIC réel horaire, c'est-à-dire qu'on ne soit pas sur la base des heures proposées, mais des heures réalisées. Mais qu'au-delà de ça, il est inadmissible qu'on n'ait pas aujourd'hui un salaire décent. C'est quand même le critère d'autonomie et le SMIC, c'est le béaba, le minimum pour s'en sortir. En dessous, pas d'autonomie. Donc là, il faudra réfléchir comment on finance ça. Bon, hein, je ne rentre pas dans cette cuisine, là je propose, donc je suis tranquille, pas de souci. Alors, sur les salaires et la retraite, évidemment, des vraies sanctions. Accompagné d'une expertise, donnons les outils à ceux qui ne les ont pas, aux salariés même, quand il n'y a pas de syndicat, ou au niveau de la branche, ou au niveau local, pour que dans toute entreprise, on puisse être capable de dire il y a tant d'écart de salaire. Parce que ne me dites pas que de 30% au niveau global, on puisse arriver à 2% dans chaque entreprise. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Alors évidemment, il y a la question de la répartition des emplois, il y a plein de choses qui jouent. Mais quand même, il reste au moins de 15 à 25% selon le niveau des qualifications. Et donc, il faut qu'on arrive vraiment à des sanctions, à des mesures de correction en matière d'écart de salaire. Sur la retraite, évidemment que lever le principe de la retraite à 60 ans est dramatique pour tous, et notamment pour les femmes. Je n'ai pas le temps de développer, mais ça va de soi. Revenir et maintenir le peu d'avantages qui compensent à peine, hein, des femmes, mères de famille qui ont élevé des enfants, qui ont été plombées dans leur carrière, ok que ce soit accepté pour les pères, à condition qu'ils démontrent, puisqu'on veut faire du cas par cas, hein, sur la pénibilité, on va faire du cas par cas pour les pères qui ont été vraiment pénalisés parce qu'ils auraient élevé leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Prendre en compte aussi la pénibilité au féminin, parce que j'en ai marre d'entendre dire la pénibilité, c'est porter lourd. Les femmes portent lourd, on a une caissière qui va venir, mais comme des petites fourmis, c'est qu'à la fin de la journée qu'on s'en rend compte, il y a plein de formes de pénibilité qui ne sont pas reconnues, et il faut absolument que dans la balance, ces formes-là soient reconnues pour permettre qu'elles puissent partir plus tôt et que ce soit pris en compte dans le débat sur la retraite. La liste est longue, je voudrais parler du système fiscal en un mot, dire que là aussi, il y a un vaste programme, alors j'ai vu que le PS voulait s'y coller, mais sans s'y coller, parce que c'est très compliqué, pour qu'on arrive enfin à avoir nos droits propres, individuels. Il y en a marre qu'on crée une mesure comme le RSA qui se veut ultra-moderne et qui soit encore familialisée. C'est une honte. C'est une honte parce qu'on nous renvoie à notre statut de mère, de conjointe, et ça, c'est inadmissible. On travaille, on doit avoir tous nos droits propres. Et ça, c'est très important. De même pour l'impôt, on sait qu'une imposition individuelle a eu des effets en Suède très positifs sur l'emploi des femmes. Alors ça, on peut en discuter longuement. Qu'est-ce qu'on fait du quotient familial? C'est technique. Mais ça n'empêche que ça soit pour nous très important de s'emparer aussi de ce débat, surtout si on arrive vers une période électorale. Interpeller là-dessus me paraît important. Et puis, comme je n'ai pas le temps de tout dire, je voudrais juste finir sur un débat que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, qui est celui de l'accueil de nos enfants. Le droit d'accueil de chaque enfant qui naît me paraît, là aussi, très lié à tout cela. Et c'est un droit que l'enfant doit avoir. Même pas la mère ou le père ou je ne sais pas quoi, non. C'est l'enfant, comme en Suède, alors j'en fais pas un modèle, hein, qui doit avoir ce droit dès la fin du congé maternité, à la grande différence de la Suède. Pas au bout d'un an de congé parental, quasiment obligatoire en Suède, puisque toutes les femmes allaitent, hein, et c'est très mal vu si vous allaitez pas, ça je peux vous le dire. Heureusement que je ne suis pas née là-bas, hein, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais donc, hein, avec notre modèle social à nous, exiger, alors peut-être un petit congé parental si elle le souhaite, qu'il soit rémunéré correctement, mais en tout cas qu'il y ait pour tous nos enfants, il manque au moins 500 000 places, à un moment où on est en train de casser la maternelle, qu'on est en train de remettre en cause tous les projets, que les assistantes maternelles se retrouvent dans des... Enfin, que nos enfants vont être dans garderies, on revient en arrière. Alors que sur la maternelle, à chaque fois que je vais dans le débat européen, la France dit « nous avons le système le meilleur qui soit » et quand on rentre chez nous, on veut casser la maternelle. Il y en a ras-le-bol. Donc défendons aussi tout ce qui est service d'accueil. Ça va avec tous ces débats sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci.
Donc, merci beaucoup Florence, merci Rachel pour vos propos pertinents et incisifs. Et toutes les femmes qui luttent, qui sont dans cette salle ici, vous remercie parce que le temps de la réflexion est aussi important.
On m'a demandé, à la place d'une minute de silence, de faire une chanson que j'ai composée il y a quelques années et que j'ai appelée « Fait divers ». Car ce n'est qu'un fait divers qu'on voit dans le journal presque tous les jours. Une femme tuée sous les coups. En hommage à Aline, dont on a dit tout à l'heure qu'on espérait que ce serait la dernière, voilà cette chanson. Il n'y avait que deux mois qu'elle vivait avec lui. Ils étaient très heureux, il était si gentil. Un jour, il est rentré et tout de suite, elle a vu qu'il avait un peu bu. Le soir, il l'a battu. Oh, 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 oh. À l'instant, il a dit que je suis devenu fou. Il a dit, je t'aime tant, tu sais, je suis jaloux. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est la dernière fois, pardonne-moi, je t'en prie. Oh, 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 oh. Il était amoureux, il lui offrait des fleurs. Ils se sont mariés, bien qu'elle eût un peu peur. Mais il recommençait et disait chaque fois, je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'aime que toi. Ils ont eu 3 enfants, nés en très peu de temps. Si elle aimait encore, elle le craignait pourtant. Quand ils recommençaient, ils disaient maintenant, elle ne partira pas à cause des enfants. Oh, 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 oh. Sous des lunettes noires, elle camouflait ses yeux. Et sous de grands foulards, elle camouflait ses bleus. Les voisins se doutaient, mais chacun se taisait. C'est une affaire de couple, on n'est pas concerné. Un soir, elle s'est enfuie en menant ses petits sous la pluie, dans la nuit, recherchant un abri. Elle a erré longtemps, en perdre la raison. Faut que je pense à mes enfants, que je rentre à la maison. Oh, 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 ne sachant où aller, elle s'en est revenue. Cette fois, il lui a dit, si tu pars, je te tue. Elle se sentait perdue, comme un oiseau blessé. Et sur elle, ce jour-là, le piège s'est refermé. Oh, 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 oh. J'ai appris aujourd'hui qu'elle est morte cette nuit. Car une fois de plus, cette nuit, il l'a battue, pas plus fort que les autres fois, mais la tête à portée sur le coin d'une table, sa vie s'est arrêtée. Oh, 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 oh.
Mode d'emploi.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous écoutez la table ronde sur le travail et l'autonomie financière des femmes, enregistrée le 12 juin 2010 à la mairie de Montreuil dans le cadre du Forum national de la Marche mondiale des femmes.
Maintenant, nous allons accueillir la parole de Amaria, qui est une caissière de Marseille, et elle va parler au nom de toutes les caissières, des luttes des caissières. À toi, Amaria.
Je vais vous parler du conflit des femmes de Carrefour Grand Littoral de Marseille, avec une grève qui a duré 16 jours. La majorité du personnel sont des femmes. Les chefs sont souvent des hommes. Je vais vous expliquer pourquoi on a décidé la grève et ce que nous avons vécu ensemble. Ce sont des conditions de travail inhumaines qui nous ont poussés à la révolte. On a droit à 20 minutes de pause pour manger, faire pipi et fumer une cigarette. En plus, les pointeuses sont loin de la salle de pause, ce qui fait perdre encore du temps de pause. Les horaires très difficiles. Dans certains rayons, les filles commencent à 4 heures du matin. Les caissières, elles finissent à 22 heures. Il faut toujours en faire plus. Toujours des remarques de chef sur le travail. Un exemple par rapport à mon âge. Un nouveau chef m'a dit « Je ne vous garderai pas, j'étais trop vieille à 45 ans. Cela fait 10 ans que je suis toujours au poste. Il devra maintenant attendre la retraite pour se débarrasser de moi. » Un harcèlement moral continue pour nous faire craquer et les personnes finissent bien par partir parce qu'ils y arrivent. Le temps partiel imposé, les agressions verbales et physiques de la clientèle, des salaires très bas. Pour 36 heures 75, 950 bruts. 950 euros bruts, après 14 ans d'ancienneté. Une pression morale permanente, le mépris de certains chefs. Quand nous passons notre entretien individuel annuel, nous avons toutes les qualités, mais jamais on nous propose une évolution. Mais pour les hommes, pas de problème pour évoluer. Je pense que le sexisme n'est pas près de disparaître dans la grande distribution. Suite à la journée nationale d'action des caissières du supermarché, nous avons décidé, en intersyndicale, de poursuivre le mouvement après une assemblée des salariés. Nos revendications, embauche des temps partiels à temps complet, trop de maladies et d'athées en caisse, amélioration de nos conditions de travail. Une prime de 250 euros que nous trouvions légitime, car cette année, le magasin a fait un très bon chiffre d'affaires. La réponse de la direction, moi je ne peux rien, c'est le national, comme d'habitude. Ça ne change pas, c'est toujours au national que ça se traite. Pourtant, dans certains magasins, ça se traite directement avec la direction. Durant l'enclonfi, nous avons été assignés deux fois en référé. Les CRS nous ont chargés. On a une camarade qui a été blessée, qui était enceinte, ainsi qu'un élu qui venait nous soutenir. Tout cela pour faire entrer dans un camion une palette de shampoing. Ce conflit a créé une solidarité entre salariés. Nous avons appris à nous connaître en dehors et à partager le peu que nous avions. C'est grâce aux dons des divers syndicats et associations, notamment le collectif 13 Droits des Femmes, que je remercie au nom de toutes les caissières Carrefour Grand Littoral. Les gens de nos quartiers avaient même écrit à la direction pour boycotter le magasin. Cela nous avait donné encore plus de détermination. Il est vrai que la direction nous a alloué pour la fin du conflit une somme de 72 000 euros, mais en donation au CE. L'amertume de la défaite se mêle à la fierté d'avoir osé affronter la direction. Nous en sommes sortis grandis, même après la trahison d'un syndicat. Il est vrai que 72 000 euros au CE... La reprise du travail n'a pas détruit le collectif créé par cette expérience. Certaines filles ont décidé de se syndiquer. La CGT est sortie grandie de ce conflit. Je finirai juste par dire, quand le pot de terre s'attaque au pot de fer, il ne se brise pas, mais grandit pour devenir fort. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup. Comme quoi les luttes, ça marche. Alors, comme troisième intervenante, on appelle Anna de Femmes Égalité qui va nous parler des luttes des travailleuses sans papier.
Bonjour. Travailler, gagner sa vie, c'est conquérir l'autonomie. Nous travaillons, nous exigeons la régularisation. C'était les mots d'ordre que les travailleurs sans papier ont scandé, et ceci depuis le 12 octobre 2009, aujourd'hui même depuis 9 mois, que ces travailleurs, avec grève et mobilisation, à côté des travailleurs sans papier, sont en lutte pour arracher, je dis bien arracher leur régularisation. La régularisation, ils ne la donnent pas, on l'arrache. Notre organisation, Femmes Égalité, aux côtés des droits des vents et de la CGT, organise et impulse la lutte des travailleurs sans papier depuis 2007. Lutte longue, riche expérience. Pour toutes. Les femmes sans papier, on les voyait principalement comme femmes victimes de violences. Et on a soutenu ces campagnes justes. On les voyait comme femmes mères d'enfants scolarisés. Et on s'est investi dans ces campagnes aussi importantes. La mobilisation des travailleurs sans papier va nous aider à nous-mêmes à regarder ces femmes sans papier comme des travailleuses. Elles aussi, elles ne reçoivent pas d'aide, elles ne vivent pas d'allocation, elles travaillent. Qu'est-ce qu'elles font? Trois quarts parmi eux, travaillent au noir. La grande majorité travaille dans les services à la personne. Elles gardent des enfants, elles accompagnent des personnes âgées, elles font les ménages, elles font le repassage, elles font les courses. Travailleuses précaires. Précaires, les plus précaires parmi les précaires. Pour nous, des femmes debout. Des femmes qui se battent pour exercer aux yeux de tout le monde, sans être obligées de se cacher, leur droit au travail. Leur droit à être payées au SMIC. Leur droit à avoir des congés payés. Leur droit à la sécurité sociale, à une fiche de paye. Leur droit à ouvrir un compte en banque et avoir un logement à leur nom. Cette lutte a permis que les travailleurs sans papier ressortent comme faisant partie du camp populaire en France. Ces travailleuses, ces travailleurs font partie de la même classe, celles et ceux qui triment, celles et ceux qui trinquent, celles et ceux qui construisent les richesses de ces pays, celles et ceux qui ont, de mois en mois, ou presque rien. Alors ça a été important qu'elles s'affirment qu'en faisant partie de ce camp, qui est notre camp. La régularisation est, pour ces femmes, nous pensons, et c'est la réalité, le premier pas indispensable pour avancer vers leur liberté, pour avancer vers leur émancipation. Aujourd'hui, depuis 9 mois, on est 11. On est 11 associations et syndicats, et je tiens à les citer, parce que nous sommes en train de réussir un pari incroyable, 9 mois d'unité. 9 mois d'unité pour faire réussir une lutte. CGT, FSU, Solidaire, CFDT, UMSA, CIMAD, LDH, ROSF, Autre Monde, Droit des Vents et Égalité. C'est une aventure. Il y a des divergences, il y a des points de vue, des sensibilités différentes, mais ce qui prime, c'est notre objectif, réussir à régulariser les travailleurs et les travailleuses sans papier. On s'y tient, on y tient et on va arriver. grévistes, il ne faut pas se tromper sur le chiffre. 6280 grévistes et 400 femmes qui travaillent dans l'aide à la personne. Parmi les grévistes, y a-t-il des femmes? Oui, elles travaillent principalement dans les nettoyages, la restauration et la confection. Elles ont fait grève? Oui. Elles ont été licenciées pour faire grève? Quelques-unes? Oui. Celles qui travaillent dans l'aide à la personne font grève? Non. Elles travaillent chez des particuliers. C'est très difficile de faire grève. Elles sont au noir. Si elles font grève, c'est on les remercie dans les meilleurs des cas ou on les jette dans la plupart des fois. Alors, la grève pour elles, ce fut de parler à leur employeur et leur dire « Je n'ai pas de papiers, je veux être régularisée, j'ai besoin d'un contrat. » C'était leur acte de lutte. Nous ne l'avons pas fait à leur place. C'est elles qui l'ont fait. Renforcées par la force du collectif, par la détermination du collectif, mais c'est elles qui ont franchi les pas et c'est comme ça qu'elles ont arraché les contrats. Elles sont aujourd'hui des contrats de leurs employeurs qui veulent les régulariser. Alors, manif, rassemblement, marche la nuit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait. Il faisait froid parfois. Il pleuvait pratiquement tout le temps. On crevait sous le soleil aussi. On est arrivé déjà à gagner l'opinion publique. C'est vrai, la grande majorité est d'accord pour la régularisation de ceux qui contribuent à créer les richesses du pays. On a gagné l'opinion publique. On a obtenu le soutien des cinéastes, des artistes. On a obtenu le soutien de toutes les forces politiques de gauche. On a obtenu le soutien d'une partie du patronat. On a obtenu l'écoute du ministère du Travail et du cabinet du chargé d'État à l'emploi. Mais Nous nous sommes heurtés à un mur en béton réactionnaire qui porte le nom d'Éric Besson. Il a fallu occuper les marches de la Bastille. On a été gazé, Annie Coupé fait partie de ceux qui ont reçu des gaz lacrymogènes pour essayer de faire que la nourriture descende pour que les travailleurs et les travailleuses puissent manger. On a été évacués, mais on est revenus. On est à nouveau à la Bastille et on peut dire que dans cette place, 24 heures sur 24, on respire la camaraderie. C'est vraiment une ambiance formidable. On vous invite à passer, les soutenir, les travailleuses et les travailleurs. Et c'est une lutte qui est importante parce que c'est la grève des travailleurs qui va permettre que la grande majorité des travailleuses qui sont dans l'aide à la personne soient régularisées. Mais c'est la lutte des travailleuses dans l'aide à la personne qui travaillent au noir qui va permettre d'ouvrir la brèche pour l'ensemble des travailleurs au noir où il y a beaucoup d'hommes. Donc, on a travaillé, on peut dire, côte à côte, hommes et femmes, pour faire aboutir une cause juste. Alors, on a un scoop, et je vais conclure. Hier, finalement, lors des négociations des 5 syndicats avec le ministère de l'Immigration, le cabinet du ministère de l'Immigration a accepté d'élaborer un texte de régularisation des travailleurs et des travailleuses sans papier. Le texte va s'élaborer la semaine prochaine. La discussion avec les textes en main a lieu vendredi prochain. Entre-temps, la Bastille reste occupée. Et aujourd'hui, cet après-midi, les travailleuses, ces femmes en lutte, vont marcher avec nous à la République. Donc, on ne désarme pas. La régularisation, on l'aura. Merci.
Merci, Anna.
Venue de tous les horizons, la 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 la, marchons ensemble et chantons, la 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 la, contre la violence et contre la misère, pour toutes les femmes de la terre, main dans la main nous marchons. Pour celles qui travaillent sans avoir de salaire, pour les chômeuses et pour les précaires, main dans la main nous marchons. Venus de tous les horizons, la 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 la, marchons ensemble et chantons, la 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 la. Contre la montée de tous les intégrismes, contre leur violence et leur sexisme, main dans la main nous marchons. Pour les Iraniennes, contre les Pazaranes, pour les Algériennes et les Afghanes, main dans la main nous marchons. Venus de tous les horizons, la 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 la, marchons ensemble et chantons, la 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 la. Pour les Congolaises qui souffrent dans leur chair, battues, violées comme butin de guerre, main dans la main nous marchons. Pour toutes les femmes excisées dès l'enfance, qui sont mutilées dans la souffrance, main dans la main nous marchons. Venus de tous les horizons, la 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 la, marchons ensemble et chantons, la 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 la, pour pouvoir aimer en toute liberté, pour que vienne enfin l'égalité, main dans la main nous marchons. pour exprimer notre solidarité avec toutes les femmes du monde entier. Main dans la main, nous marchons.